Avant le retour de la Grande Table et de ses invités, le 11 mai, heureuse de vous retrouver pour cette dernière semaine d'écouter révisée. Le temps d'un confinement, France Culture a choisi de faire résonner dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains. Une invitation à lire ou à relire nos classiques. Des romans, des pièces ou des poèmes, réviser ces œuvres de notre patrimoine littéraire au programme du bac de français, analysé pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Stendhal, Le Rouge et le Noir, épisode 2, lecture Laurent Poitronneau.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Paradoxalement, Stendhal est considéré comme le premier romancier réaliste, alors que sa vie fut plutôt celle d'un héros romantique. Né à Grenoble en 1783, enfant sensible et solitaire, il voue un amour passionné à sa mère, au point de lui inventer des origines italiennes pour mieux la distinguer de la famille Bayle, dont il méprise le conformisme bourgeois. Il a 7 ans quand elle meurt, un drame qui provoquera en lui un sentiment de révolte et de haine contre sa tante Séraphie qui prétend remplacer sa mère et le juge d'un caractère atroce, contre son précepteur et surtout contre son père. Henri Bayle n'a jamais aimé son nom, il essayera plus de 200 pseudonymes avant de s'arrêter sur un, Stendhal, qui rime avec scandale. Adolescent, il quitte sa ville natale pour Paris, mais au lieu d'étudier, il rejoint les troupes napoléoniennes et s'engage dans la campagne d'Italie. Lorsqu'il quitte Milan, c'est vêtu du superbe uniforme d'officier de dragons. La chute du Premier Empire et la Restauration mettent fin à une brillante carrière militaire et politique, mais Stendhal continue à mener une vie intense entre la France et l'Italie, et quand il s'ennuie, il écrit. Stendhal a deux grands centres d'intérêt. Les événements de son temps, on parlerait aujourd'hui de l'actualité, il a d'ailleurs aussi été journaliste, et l'âme humaine, deuxième sujet de curiosité. Auteur d'essais sur la peinture et sur la musique, de récits de voyages, d'ouvrages autobiographiques et bien sûr de romans dont les célèbres Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, Stendhal reconnaît une forme d'égotisme, c'est-à-dire une certaine complaisance à parler de soi, qui va traverser tout son œuvre. Sensible et volontaire, type même de l'individu romantique, Stendhal n'en aura toutefois jamais la naïveté. Dans ses livres, il interroge le monde qui l'entoure et analyse l'époque. Avec Le Rouge et le Noir, son second roman paru en 1830, il livre une véritable fresque historique et sociale de la France sous la Restauration. La France grave, morale, morose, que nous ont légué les jésuites, les congrégations et le gouvernement des Bourbons, de 1814 à 1830, écrira-t-il. Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Tout le réalisme de Stendhal, évoquer le réel brut, extérieur, tient dans cette célèbre citation tirée du Rouge et le Noir. Même si la critique n'est pas unanime sur ce point, on dit que Julien Sorel, le personnage principal du roman, a été inspiré à Stendhal par des faits divers, empruntés directement à l'actualité de son temps. Né du rapprochement de deux affaires relatées par la Gazette des Tribunaux. La première, en 1827, dans les Alpes, Antoine Berthet est guillotiné pour avoir assassiné Madame Michou de la Tour, femme d'un magistrat de Grenoble. Il est devenu son amant alors qu'il était le précepteur de ses enfants. La seconde, l'affaire Lafargue, est racontée dans les promenades de Rome publiées par Stendhal en 1829. Adrien Lafargue était un ébéniste qui, après avoir tiré deux coups de pistolet sur sa maîtresse, lui coupa la tête avec son couteau. Ces deux hommes illustrent dans le crime et le basculement violent une même ambition de réussir et une même frustration d'être freinée par l'état des conventions en 1830. La réussite de Napoléon fait naître de nouvelles ambitions. Voici ce qu'il écrivait à propos de Lafargue. Tandis que les hautes classes de la société parisienne semblent perdre la faculté de sentir avec force et constance, les passions déploient une énergie effrayante dans la petite bourgeoisie, parmi ces jeunes gens qui, comme M. Lafargue, ont reçu une bonne éducation, mais que l'absence de fortune oblige au travail et met en but avec les vrais besoins. Stendhal va s'en inspirer tout en puisant dans sa propre expérience pour construire le personnage de Julien Sorel. Sous-titré « Chronique de 1830 », écrit avec la volonté de peindre la vérité, l'âpre vérité, le rouge et le noir se nourrit de petits faits vrais, mais il donne également à entendre la voix de l'auteur, qui réalise des intrusions au cœur même du récit. Refusant de se conformer à un genre, Stendhal affiche une élégante désinvolture. « Pour un écrit aussi frivole, manquer de grâce, c'est mourir », dit-il. Ouvrons le roman maintenant. Le Rouge et le Noir retrace le parcours de Julien Sorel, un petit jeune homme de 19 ans, fils d'un bûcheron, mu par un fort désir de revanche sociale. Passionné et calculateur, ambitieux et révolté, le héros du Rouge et le Noir a souvent été perçu comme un double de son créateur. Le fils Sorel grandit dans la petite ville de Verrières, dont il veut à tout prix sortir, trouve refuge dans la lecture et les études, admire Napoléon avec ferveur, comprend que pour monter, il lui faut devenir prêtre. Embauché comme précepteur des enfants de Monsieur de Rênal, le maire de Verrières, Julien va ainsi faire la rencontre de Madame de Rênal, une femme de 30 ans, mais encore assez jolie, écrit Stendhal. Elle éblouit le jeune plébéien par sa beauté et sa grâce, tout aristocratique. Chapitres 8 et 9 du roman, première partie. La famille de Rênal, accompagnée de Julien, se rend dans son château de Vergy pour y profiter de la campagne et des beaux jours. Commence alors pour Julien, entre deux parties de chasse aux papillons, la conquête de Madame de Rênal. Et cet extrait vous est lu par le comédien Laurent Poitronneau.
Attentif à copier les habitudes des gens de cour, dès les premiers beaux jours du printemps, Monsieur de Rênal s'établit à Vergy. C'est le village rendu célèbre par l'aventure tragique de Gabriel. À quelques centaines de pas des ruines si pittoresques de l'ancienne église gothique, Monsieur de Rênal possède un vieux château avec ses quatre tours et un jardin dessiné comme celui des Tuileries, avec force bordure de buis et allées de marronniers taillées deux fois par an. Un champ voisin, planté de pommiers, servait de promenade. 8 ou 10 noyers magnifiques étaient au bout du verger. Leur feuillage immense s'élevait peut-être à 80 pieds de hauteur. Chacun de ces maudits noyers, disait M. de Rênal quand sa femme les admirait, me coûte la récolte d'un demi-arpent. Le blé ne peut venir sous leur ombre. La vue de la campagne sembla nouvelle à Madame de Rênal. Son admiration allait jusqu'au transport. Le sentiment dont elle était animée lui donnait de l'esprit et de la résolution. Dès le surlendemain de l'arrivée à Vergy, Monsieur de Rênal étant retourné à la ville pour les affaires de la mairie, Madame de Rênal prit des ouvriers à ses frais. Julien lui avait donné l'idée d'un petit chemin sablé qui circulerait dans les vergers et sous les grands noyers et permettrait aux enfants de se promener dès le matin sans que leurs souliers fussent mouillés par la rosée. Cette idée fut mise à exécution moins de 24 heures après avoir été conçue. Madame de Rênal passa toute la journée gaiement avec Julien à diriger les ouvriers. Lorsque le maire de Verrières revint de la ville, il fut bien surpris de trouver l'allée faite. Son arrivée surprit aussi Madame de Rênal, elle avait oublié son existence. Pendant 2 mois, il parla avec humeur de la hardiesse qu'on avait eue de faire, sans le consulter, une réparation aussi importante. Mais Madame de Rênal l'avait exécutée à ses frais, ce qui le consolait un peu. Elle passait ses journées à courir avec ses enfants dans le verger et à faire la chasse aux papillons. On avait construit de grands capuchons de gaz clair avec lesquels on prenait les pauvres lépidoptères. C'est le nom barbare que Julien apprenait à Madame de Rênal, car elle avait fait venir de Besançon le bel ouvrage de M. Godard, et Julien lui racontait les mœurs singulières de ces pauvres bêtes. On les piquait sans pitié avec des épingles dans un grand cadre de carton arrangé aussi par Julien. Il y eut enfin entre Madame de Rênal et Julien un sujet de conversation. Il ne fut plus exposé à l'affreux supplice que lui donnaient les moments de silence. Ils se parlaient sans cesse et avec un intérêt extrême, quoique toujours de choses fort innocentes. Cette vie active, occupée et gaie était du goût de tout le monde, excepté de Mademoiselle Elisa, qui se trouvait excédée de travail. « Jamais dans le carnaval, disait-elle, quand il y a bal à Verrières, Madame ne s'est donné tant de soins pour sa toilette. Elle change de robe 2 ou 3 fois par jour. » Comme notre intention est de ne flatter personne, nous ne nierons point que Madame de Rênal, qui avait une peau superbe, ne se fit arranger des robes qui laissaient les bras et la poitrine fort découverts. Elle était très bien faite, et cette manière de se mettre lui allait à ravir. « Jamais vous n'avez été si jeune, Madame, » lui disaient ses amis de Verrières qui venaient dîner à Vergy. C'est une façon de parler du pays. Une chose singulière qui trouvera peu de croyance parmi nous, c'était sans intention directe que Madame de Rênal se livrait à tant de soins. Elle y trouvait du plaisir et sans y songer autrement, tout le temps qu'elle ne passait pas à la chasse aux papillons avec les enfants et Julien, elle travaillait avec Elisa à bâtir des robes. Sa seule course à Verrières fut causée par l'envie d'acheter de nouvelles robes d'été qu'on venait d'apporter de Mulhouse. Elle ramena à Vergy une jeune femme de ses parentes. Depuis son mariage, Madame de Rênal s'était liée insensiblement avec Madame d'Herville qui autrefois avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Madame d'Herville riait beaucoup de ce qu'elle appelait les idées folles de sa cousine. « Seule, jamais je n'y penserai », disait-elle. Ces idées imprévues qu'on eût appelées saillies à Paris, Madame de Rênal en avait honte comme d'une sottise quand elle était avec son mari. Mais la présence de Madame d'Herville lui donnait du courage. Elle lui disait d'abord ses pensées d'une voix timide. Quand ces dames étaient longtemps seules, l'esprit de Madame de Rênal s'animait et une longue matinée solitaire passait comme un instant et laissait les deux amies fort gaies. À ce voyage, la raisonnable Madame d'Herville trouva sa cousine beaucoup moins gaie et beaucoup plus heureuse. Julien, de son côté, avait vécu en véritable enfant depuis son séjour à la campagne, aussi heureux de courir à la suite des papillons que ses élèves. Après tant de contraintes et de politiques habiles, seul, loin des regards des hommes et, par instinct, ne craignant point Madame de Rênal, il se livrait au plaisir d'exister, si vif à cet âge et au milieu des plus belles montagnes du monde. Dès l'arrivée de Madame d'Herville, il sembla à Julien qu'elle était son amie. Il se hâta de lui montrer le point de vue que l'on a à l'extrémité de la nouvelle allée sous les grands noyers. Dans le fait, il est égal, si ce n'est supérieur à ce que la Suisse et les lacs d'Italie peuvent offrir de plus admirable. Si l'on monte la côte rapide qui commence à quelques pas de là, on arrive bientôt à de grands précipices bordés par des bois de chênes qui s'avancent presque jusque sur la rivière. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic que Julien, heureux, libre et même quelque chose de plus, roi de la maison, conduisait les deux amis et jouissait de leur admiration pour ces aspects sublimes. « C'est pour moi comme de la musique de Mozart », disait Madame d'Herville. La jalousie de ses frères, la présence d'un père despote et rempli d'humeur, avait gâté aux yeux de Julien les campagnes des environs de Verrières. À Vergy, il ne trouvait point de ses souvenirs amers. Pour la première fois de sa vie, il ne voyait point d'ennemis. Quand M. de Rênal était à la ville, ce qui arrivait souvent, il osait lire. Bientôt, au lieu de lire la nuit, et encore en ayant soin de cacher sa lampe au fond d'un vase à fleurs renversées, il put se livrer au sommeil. Le jour, dans l'intervalle des leçons des enfants, il venait dans ses rochers avec le livre, unique règle de sa conduite et objet de ses transports. Il y trouvait à la fois bonheur, extase et consolation dans les moments de découragement. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne, lui donnèrent alors, pour la première fois, quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délice du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes. En gesticulant, il toucha la main de Madame de Rênal qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite. Mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur.
En aparté, et avant d'écouter la lecture du chapitre 9, ce chapitre 8 s'achève sur cet événement imprévu et furtif, en apparence anodin. Les mains de Julien et de Madame de Rênal se frôlent à l'ombre des tilleuls. Mais c'est justement cet effleurement léger, cette caresse involontaire, qui infléchit d'un coup la relation entre les personnages et transforme le badinage amoureux en entreprise militaire, comme le confirme le chapitre suivant. On retourne à la lecture de Laurent Poitrenaud.
Chapitre 9. Une soirée à la campagne. Ses regards le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. La présence de Madame Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire, toute cette journée, fut de se fortifier par la lecture du livre inspiré qui retrempait son âme. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil en baissant, et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Il observa avec une joie qui lui ôta un poids immense de dessus la poitrine qu'elle serait fort obscure. Le ciel chargé de gros nuages, promené par un vent très chaud, semblait annoncer une tempête. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. Elle jouissait de ce temps qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le plaisir d'aimer. On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. « Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ?» se dit Julien. Car il avait trop de méfiance et de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à Madame de Rênal quelque affaire qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin ? La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi. Mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors lui-même. 9h03 venait de sonner à l'horloge du château sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix alors était éclatante et forte. Celle de Madame de Rênal, au contraire, trahissait tant d'émotion que son ami la crut malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. Si Madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. Au moment où Madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit en disant d'une voix mourante « Je me sens, à la vérité, un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Ces mots confirmèrent le bonheur de Julien qui, dans ce moment, était extrême. Il parla, il oublia de feindre, il parut l'homme le plus aimable aux deux amis qui l'écoutaient. Cependant, il y avait encore un peu de manque de courage dans cette éloquence qui lui arrivait tout à coup. Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Il avait eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Quelque légers que fussent ses reproches, il allait être battu et l'avantage qu'il venait d'obtenir anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et emphatiques trouvèrent grâce devant Madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant, un peu amusant. Pour Madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien. Elle se laissait vivre. Les heures qu'on passa sous ce grand tilleul que la tradition du pays dit planté par Charles le Téméraire furent pour elle une époque de bonheur. Elle écoutait avec délice les gémissements du vent dans l'épais feuillage du tilleul et le bruit de quelques gouttes rares qui commençaient à tomber sur ses feuilles les plus basses. Julien ne remarqua pas une circonstance qui l'eût bien rassuré. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main, parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau, qu'elle lui rendit sa main presque sans difficulté, et comme si déjà c'eût été entre eux une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le bonheur lui ôtait le sommeil. Un sommeil de plomb s'empara de Julien, mortellement fatigué des combats que toute la journée la timidité et l'orgueil s'étaient livrés dans son cœur. Le lendemain, on le réveilla à 5 heures, et ce qui eût été cruel pour Madame de Rênal, si elle l'eût su, à peine lui donna-t-il une pensée. Il avait fait son devoir, et un devoir héroïque. Rempli de bonheur par ce sentiment, il s'enferma à clé dans sa chambre et se livra avec un plaisir tout nouveau à la lecture des exploits de son héros. Quand la cloche du déjeuner se fit entendre, il avait oublié, en lisant les bulletins de la grande armée, tous ses avantages de la veille. Il se dit, d'un ton léger en descendant au salon, « Il faut dire à cette femme que je l'aime. »
Un voyage en Stendhali, guidé par le comédien Laurent Poitrenneau. Cette contrée littéraire, l'écrivain Julien Gracq, la présente comme suit. Si je pousse la porte d'un livre de Bayle, j'entre en Stendhali comme je rejoindrai une maison de vacances. Le souci tombe des épaules, la nécessité se met en congé, le poids du monde s'allège. Tout est différent, la saveur de l'air, les lignes du paysage, l'abord des gens. Et maintenant, l'analyse des inspecteurs généraux et professeurs de l'éducation nationale. À Vergy, le cadre est propice à la naissance d'une idylle amoureuse. Ainsi, les petits événements relatés dans le chapitre 8 sont autant d'indices du rapprochement qui s'opère entre l'épouse du maire et le précepteur de ses enfants. Chasse aux papillons, leçons de choses, innocentes conversations, achat de nouvelles robes, arrivée de Madame Derville, l'ami du Sacré-Cœur, soirée sous les tilleuls, les ailes des pauvres lépidoptères prisonniers de grands capuchons de gaz clair, les précipices bordés de bois de chêne, les robes d'été de Madame de Rênal, l'air léger de Vergy fait tourbillonner les cœurs. Le séjour à Vergy agit sur l'héroïne à la manière d'une fontaine de jouvence. Ses amis d'ailleurs lui font remarquer que jamais elle n'a été si jeune. Sans y songer autrement, elle devient coquette, change de robe 2 ou 3 fois par jour, laisse ses bras et sa poitrine fort découverts. Séduction discrète et inconsciente apparemment, à laquelle Julien, qui vit à Vergy en véritable enfant, précise l'auteur, ne semble guère prêter attention. c'est que le fils Sorel fait, pour la première fois de son existence, la découverte du bonheur. Enfin, loin du regard des hommes, le jeune homme se sent heureux, libre, en harmonie avec le cadre sublime qui l'entoure. La possibilité de s'isoler pour lire, la présence de Madame de Rênal lui font du bien. Une esthétique qui rapproche l'auteur du mouvement romantique. Julien, au sommet des rochers coupés à pic, évoque le tableau du peintre allemand Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages. Le séjour à Vergy constitue le moment heureux de Julien. Il le réalisera malheureusement trop tard. « Autrefois, dit-il à Madame de Rênal, quand j'aurais pu être si heureux pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. » Une menace planait déjà sur les beaux jours de Vergy, village rendu célèbre par l'aventure tragique de Gabriel, référence au récit médiéval du cœur mangé, selon lequel le mari de Gabriel aurait fait dévorer à cette épouse infidèle le cœur de son amant. La présence de Monsieur de Rênal vient aussi rappeler le caractère interdit des sentiments qui se nouent entre Julien et Madame de Rênal. Mais c'est surtout Julien qui va gâcher ce bonheur, en se faisant un devoir de reprendre la main qui s'est retirée bien vite. Et c'est la fin de l'innocence. Le fils du charpentier va désormais tout faire pour conquérir l'épouse du maire, devenue l'ennemi avec lequel il va falloir se battre. Le combat est épuisant pour Julien qui sans cesse calcule, pense, victoire, défaite, devoir, rôle, qui jamais ne s'abandonne, jamais n'oublie qui il est et qui elle est. Alors que Madame de Rênal se laisse emporter par ses sentiments, Julien, lui, garde toujours le contrôle de lui-même. Stendhal met en avant la mortelle angoisse qu'éprouve son héros au moment de prendre la main de sa conquête. De ce petit événement, l'auteur fait une scène pleine de rebondissements. Il observe son personnage, souligne ses ambiguïtés avec tendresse et ironie. Le recours à la focalisation interne permet au lecteur de découvrir le caractère tourmenté du jeune homme qui conçoit l'amour comme un duel. L'amour sera l'arme de sa revanche sociale, la première étape de la conquête d'un monde dont les portes jusqu'ici lui sont restées closes. La parenthèse enchantée se referme, pour le lecteur aussi, après cette halte en Stendhalie, un refuge fait pour les dimanches de la vie, écrira encore Julien Gracq. Et maintenant, tous à vos livres, c'était Écouter, Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Philippe Leguillou, inspecteur général, et Laetitia Masquelier, professeure, qui ont choisi cet extrait et préparé cette analyse. Fiction coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon avec Bastien Varigaud à la technique. Mise en onde, Midia Portis-Guérin. Sur franceculture.fr, vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster et retrouver toutes les informations en lien avec l'émission compilée et mise en page par Laura Dutèche-Pérez. Très bel après-midi sur France Culture et à demain.